chanter, car il y en est trop bon pour garder ma place à l'Élysée. Être politicien, c'est savoir se prostituer. Je suis Pinocchio politico, des magots pour briller. Oui, j'en fais trop. Je suis présomptueux, un peu mytho, jamais réglo le pédigré qui me colle à la peau. Je suis Pinocchio politico, des magots pour briller. Oui, j'en fais trop. Je suis présomptueux, un peu mytho, jamais réglo le pédigré qui me colle à la peau.
Récemment, en recherchant une station de radio en modulation de fréquence, vous avez peut-être entendu cet indicatif bizarre.
Principe Actif, le mix des cultures.
C'est celui de
Principe Actif. Principe Actif.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Bon, vous voulez envoyer un peu de musique, cher ami ?
Sophie, 9h à Paris, 7h en temps universel.
Andréane Mélard.
C'est le journal, tout de suite, avec Julien Coquelrand-M.
Et à la une, un nouveau barrage de missiles iraniens en direction d'Israël. Les échanges de tirs entre les deux pays continuent. Et la guerre semble reprendre de plus belle, 2 mois jour pour jour après le début du cessez-le-feu avec la République islamique. Au Yémen, les rebelles houthis alliés de l'Iran annoncent interdire la navigation en mer Rouge. On appelle notre correspondant à Téhéran pour faire le point dans un instant. Dans l'actualité également ce matin, Nicole Pachignan victorieux pour de bon aux élections législatives en Arménie. Nous sommes à Londres, où Volodymyr Zelensky s'est entretenu hier avec les dirigeants britanniques, français et allemands. Dans ce journal aussi, notre dossier du jour consacré au business lucratif des demandes de visa. RFI mène l'enquête. Et puis la santé des océans, de plus en plus mauvaise. C'est le constat d'un baromètre révélé ce matin. Même si plusieurs avancées indiquent que la communauté internationale s'intéresse enfin au sujet.
C'est une vague de frappes interposées qui ressemble fort à une reprise du conflit avec l'Iran.
Même si les États-Unis n'y sont pas impliqués pour l'instant, le front entre Téhéran et Israël rouvert hier soir par les premiers tirs de missiles iraniens contre l'État hébreu depuis le cessez-le-feu conclu le 8 avril en représailles, selon Téhéran, au bombardement israélien qui a fait 2 morts et 20 blessés hier dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban. Donald Trump, qui continue de négocier avec l'Iran, a tenté de dissuader Benjamin Netanyahou de riposter. Mais Israël a bien frappé le pays cette nuit, Siavosh Gazi, et l'Iran continue de répondre ce matin.
Les frappes israéliennes ont eu lieu vers 4h du matin hors local. Téhéran a été touché, mais aussi Isfahan, Tabriz ou encore Karaj, mais également une unité pétrochimique à Mashhad et dans le sud de l'Iran, ce qui a provoqué une réaction très vive de la part des autorités iraniennes. Les autres cibles étaient plutôt des cibles militaires, notamment à Téhéran, à Isfahan ou encore Tabriz, mais l'Iran a riposté donc vers 7h du matin, moins de 3h après l'attaque israélienne, une première vague de frappe dans le centre d'Israël et dans le sud, et puis une nouvelle vague qui a été menée 1 heure plus tard contre 2 bases militaires aériennes et israéliennes, la base de Tel Nof et de Noatim dans le centre et le sud d'Israël. Les autorités iraniennes ont affirmé que des cibles très importantes ont été détruites dans ces 2 bases militaires aériennes qui sont les principales bases israéliennes, donc pour l'aviation, notamment des F-35 qui sont basés dans ces 2 aéroports. Et puis, un commandant des gardiens de la révolution a affirmé que l'Iran a montré une nouvelle fois qu'il contrôlait le ciel de toute la région, mais aussi d'Israël. Donc, l'Iran joue l'escalade avec ses alliés, les Houthis au Yémen, qui ont interdit le trafic, le passage des navires civils ou militaires israéliens dans le détroit de Bab el-Mandeb. Donc, tous les alliés de l'Iran jouent également l'escalade avec Téhéran.
Merci à Siavosh Gazi à Téhéran pour RFI. Merci beaucoup. Alors que l'armée israélienne a fait état il y a quelques minutes d'un nouveau barrage de missiles iraniens. Situation à suivre minute par minute dans notre direct sur RFI.fr.
À la une également ce matin, un triple dimanche électoral.
Le second tour de la présidentielle au Pérou et les premiers résultats provisoires qui donnent une légère avance au candidat de la gauche Roberto Sanchez face à Keiko Fujimori, la candidate de la droite autoritaire et fille de l'ancien dictateur Alberto Fujimori. Du côté du Kosovo, le premier ministre Albin Kurti est en tête des élections législatives, mais en recul de 8 points par rapport au dernier scrutin en décembre. Et puis on part en Arménie, où l'on votait là aussi aux élections législatives, les premières, après la défaite dans la guerre contre l'Azerbaïdjan en 2020 et la perte du Haut-Karabakh en 2023. Les résultats sont à présent définitifs et ils confirment la victoire du Premier ministre Nicole Pachignan. Bonjour Daniel Vallaud.
Bonjour.
En direct de Yerevan pour RFI, le parti Contrat Civil obtient donc un peu plus de 49% des voix.
Oui, Nicole Pachignan qui manque de peu la barre des 50%, mais qui va obtenir une majorité en siège au sein du Parlement et qui sera donc reconduit à son poste de Premier ministre qu'il occupe depuis 2018 et la révolution de velours. Avant même que ces résultats soient confirmés, l'ancien journaliste les a qualifiés d'historiques déclarations dans le courant de la nuit devant un petit groupe de partisans et d'élus réunis à Yerevan.
Les élections qui ont eu lieu le 7 juin ont donné la victoire à notre parti, le Contrat Civil. C'est une grande responsabilité et cela signifie que les citoyens arméniens se sont mobilisés pour leur indépendance, pour leur avenir et pour la paix. Chers concitoyens, je vous aime tous et je suis fier de vous. Gloire aux martyrs et longue vie à la République d'Arménie.
Nicole Pachignan, dont le parti devrait obtenir un peu plus de 60 sièges au Parlement, qui en compte 105, une majorité trop mince pour réviser, comme il le souhaite, la Constitution, condition posée par l'Azerbaïdjan pour ratifier l'accord de paix signé l'été dernier à Washington. Sur l'autre grand axe de sa politique extérieure, le rapprochement avec Bruxelles et Washington, justement, le nouveau Parlement risque de lui compliquer la tâche avec une opposition dominée par les formations favorables à la Russie, en particulier le parti Arménie Forte de l'homme d'affaires Samvel Karapetyan, qui obtient 23% des voix.
Daniel Valot, merci. Nicole Pachignan, déterminé à poursuivre malgré tout son pivot vers l'Occident, sans pour autant couper les ponts avec la Russie. Il a déjà prévenu que son premier voyage en cas de victoire serait à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine.
La Russie, Julien, frappée en Crimée ce matin.
Un mort et un blessé dans une attaque de drones ukrainiennes contre un train dans la péninsule annexée par la Russie en 2014. Sur le terrain diplomatique, Volodymyr Zelensky était à Londres hier soir pour un dîner à Downing Street avec Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz. L'occasion pour les dirigeants britanniques, français et allemands de soutenir la proposition ukrainienne d'un dialogue direct avec la Russie. Sidonie Gaucher.
Ils s'étaient déjà retrouvés en décembre dernier. Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont de nouveau montré leur soutien à Volodymyr Zelensky et envoyé un signal fort à Moscou. Première exigence, un cessez-le-feu immédiat. Ensuite, demander que la ligne de front actuelle serve de point de départ aux négociations et non les frontières d'avant-guerre. Deuxième point clé, des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine avec le déploiement d'une force multinationale sur le terrain. Pas question de laisser Kiev sans protection après un éventuel accord. Troisième message, les avoirs russes gelés resteront bloqués tant que Moscou n'aura pas indemnisé l'Ukraine pour les destructions causées par la guerre. Enfin, les intérêts de sécurité de l'Europe doivent être préservés. La balle est maintenant dans le camp russe. Prochain rendez-vous, le G7 à Évian, puis le sommet de l'OTAN à Ankara. Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
Aux Philippines, au moins 15 morts et de nombreux bâtiments détruits.
Après un puissant séisme de magnitude 7,8, suivi de plus d'une dizaine de répliques le jour de la rentrée scolaire dans le pays, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre notamment une foule d'enfants réunis devant leur école en train de s'effondrer. L'alerte au tsunami dans le Pacifique a été déclenchée. Les Philippines, l'Indonésie et la Malaisie appellent les habitants des régions côtières à évacuer vers des zones plus élevées.
7h08 en temps universel. Dans notre dossier ce matin, une enquête sur un secteur très lucratif.
Le marché de la prise de rendez-vous pour les visas, objet de beaucoup d'incompréhension chez les demandeurs qui se plaignent souvent de la complexité et du coût des procédures. Bonjour Sidi Ansanem.
Et bonjour Julien.
Vous avez donc mené l'enquête avec l'organisation de journalisme d'investigation Lighthouse Reports sur une entreprise qui est devenue un acteur majeur du secteur, VFS Global, entreprise indienne à laquelle de nombreux gouvernements à travers le monde ont confié le traitement de leurs demandes. VFS Global parvient à tirer de gros profits de ses services au point d'attirer dans son sillage des fraudeurs.
Oui, un VFS Global qui opère dans 168 pays, en contrat avec 71 gouvernements, et pourtant elle laisse le même goût amer chez les demandeurs de visas africains comme Aliou, artiste graffeur et entrepreneur sénégalais habitué des demandes de visa pour l'Europe. Il a récemment essuyé un nouveau refus, motif des doutes sur son retour au Sénégal.
J'ai fait un recours parce que je me suis dit que ça, c'est pas légitime que vous me refusiez le visa ou que j'ai toutes les informations que vous avez demandées, j'ai tout amené, tout est propre. Et vous me dites que vous avez des doutes. Et en plus, les dépôts, c'est cher. Mais après, on te rejette tout simplement sans te donner de mouquet. C'est de l'arnaque, en fait. Moi, je comprends pas le système, mais je me dis qu'en Afrique, ce qui se passe actuellement avec les visas, c'est, excusez-moi du terme, mais c'est du grand n'importe quoi.
Parallèlement à cette colère grandissante, ce grand n'importe quoi, on le disait, Sidi, VFS fait de gros bénéfices.
Oui, selon les états financiers de VFS Global déposé au Luxembourg, ses bénéfices opérationnels ont quadruplé en moins d'une décennie jusqu'à 171 millions d'euros en 2024. Mais sur la même période, le volume des demandes de visa n'a augmenté que de 15%. L'entreprise explique cette croissance fulgurante par la vente de services à valeur ajoutée des VAS, comme des informations par SMS ou alors l'accès à un espace dit VIP.
Et ce sont justement ces VAS qui sont placés au cœur de la stratégie commerciale de la société.
L'enquête montre que ces VAS pèsent pour 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise au niveau mondial. Exemple en Afrique du Sud et au Kenya, où la vente de ces services représente plus de 10%.
staying alive.
Si vous avez fait le 1 parce que vous êtes satisfait de votre message, ou faites le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous étiez satisfait d'avoir fait le 2 parce que vous n'étiez pas satisfait de votre message.
Principe actif, c'est aussi un répondeur. Au 02 32 62 57 32.
Je vais y arriver, hein. Je vais faire un message.
Sortie, événement, résultats sportifs, coup de gueule, info. Bref, le répondeur, c'est aussi votre zone d'expression radiophonique.
Paris, t'as eu un appel qui t'a perturbé.
Mais non, c'est pas un appel qui m'a perturbé.
Allô ? Je suis tout nu et je suis en train de me perturber.
Les messages sont diffusés à l'antenne dans la matinale à 8h15. Alors prenez possession des ondes et laissez vos messages après le bip. Au 02 32 62 57 32. On attend vos messages.
Jelia, 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 Akadide.